très intéressante. Un instant, s'il vous plaît. Je demande un instant, madame. Encore deux questions, parce que je vous informe qu'à 17h, il y a une autre rencontre. Donc, nous prenons encore deux autres questions, ce qui ne permettra pas de converser après. Donc, je vous remercie pour ces informations. Troisième. Bon, je vous remercie pour ces informations complémentaires. C'est vrai que aujourd'hui, dans l'exposé oral, je n'ai pas parlé de l'inflation. Bon, j'en parle évidemment dans le livre. Enfin, c'est tellement, c'est de mon point de vue tellement évident que vous m'excuserez de ne pas le savoir. Alors, nous prenons donc madame.
Alors, moi je pense, pour aller au-delà des préjugés, il faudrait surtout éviter dans un nouveau préjugé, qui est cette vantardise germanique, parce que lorsqu'on parle de l'Allemagne et qu'on fait ces comparaisons qui, à mon avis, ne reposent sur rien, absolument rien, que ce soit la performance éducative, l'Allemagne produit chaque année à peu près 800 000 élèves, dont plus de 600 000 qu'on appelle les Hong, Hauptschüler ohne Nennenswerte Kenntnisse, ce qui veut dire qu'ils n'ont aucune connaissance valable, qui sont en fait des échecs solides et qui sont récupérés dans une structure à peu près 400 à 500 000. Très coûteux d'ailleurs et financé par le ministère fédéral, alors qu'il y ait compétence éducative territoriale. Ceci pour des manipulations budgétaires. Si vous voulez par exemple avoir une image un peu plus réelle sur ce qui se passe en Allemagne, ne serait-ce que sur la question éducative, je vous conseille donc de consulter les chiffres qui sont tout à fait publics. À Bonn, le Bundesbildungsamt. Hein. Et donc là, on tombe des nues. Pareil pour le chômage. C'est-à-dire ces jeunes qui apparaissent encore dans les statistiques en France parce qu'ils sont un échec scolaire, sont disponibles pour le marché du travail, mais ne trouvent pas de travail. Ces personnes de la même catégorie n'apparaîtront jamais dans aucune statistique du Statistische Bundesamt. Et ça, il faut le savoir. Lorsque on vous ressasse à longueur de journée le taux de chômage des jeunes, blablabla, il faut savoir que tout simplement par le truchement des chiffres et des agrégats qui composent les statistiques, n'est-ce pas, on a en fait manipulé la réalité. Lorsque vous dites économie, c'est-à-dire l'Allemagne très vouée depuis une longue tradition à l'économie, à gérer les affaires de l'État avec parcimonie, etc. Très bien. Non. Il suffit de regarder l'argent pradé, et je dis bien pradé, des milliards, un budget, un paquet de 400 milliards, ne serait-ce que pour une industrie qui a tout de même licencié des dizaines de milliers de personnes, notamment dans l'automobile. Il faut aussi savoir pourquoi, monsieur, vous avez très très justement, dans votre livre, fait état de Berlin, du coût de la vie. Ce coût de la vie berlinois, il repose sur une seule partie et qui pèse très lourdement dans tous les agrégats comparatifs d'Eurostat. C'est l'immobilier, c'est-à-dire ce que dépense un ménage pour se loger. Or, du seul fait que Berlin, le pays de Berlin, le fameux Land, comme on aime le dire, et le Brandebourg, qui sont en association depuis peu, se sont donc spécialisés dans la collecte des fonds structurels FEDER et SES. C'est-à-dire en finance depuis la réunification, à savoir depuis 20 ans, rien que l'État et la ville de Berlin. Et quand vous voyez les chiffres vraiment très astronomiques, on se demande pourquoi la France et vous l'aviez si justement énoncé, au sein de l'Union, ne se révolte pas, parce qu'il y a un total déséquilibre, notamment en ce qui concerne les aides européennes, dont se fait arroser l'Allemagne, et elle en bénéficie. Et quant à payer sa dette après la guerre, je rappelle, ça c'est la fin, en 1953, l'Allemagne a fait état de son incapacité de rembourser sa dette d'après-guerre et on lui a remis 60% de cette dette.
Troisième point, je veux dire, nos activités en France ceux ont existé depuis longtemps, elles continuent, mais nous sommes de moins en moins nombreux. C'est ainsi que la loi de nature a allé dans les collèges et les lycées. Ceci, je le dis parce que Philippe Olivier me rappelait tout à l'heure l'importance qu'il y avait à chercher à persuader, à convaincre la jeunesse française de la multiplication de contacts avec l'allemand, avec des jeunes allemands, de manière à faciliter le lien entre ces deux grands pays. Dans les conversations que j'ai et les présentations, les interventions dans ces milieux scolaires, je ne dis jamais, je ne prononce une parole qui puisse vexer un citoyen français et un citoyen allemand, grossier. Notre devise étant ni haine ni oubli, elle dit bien ce qu'elle veut dire, mais de race non permis. Elle dit bien ce qu'elle veut dire, et nous participons également au jury des concours nationaux de la résistance. Donc là, ce sont des points quand même extrêmement importants. Je ne parlerai pas du livre d'histoire franco-allemande, parce que j'en discute personnellement le contenu, notamment en ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale. On passe trop légèrement sous silence la période de la résistance et les camps, mais enfin, c'est ainsi qu'il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est, il vaut mieux qu'il existe plutôt que non. Je crois que c'est comme ça. Alors, je voulais donc m'exprimer pour profiter de ce public sympathique pour exprimer ce que nous, les anciens des camps, nous ressentons encore aujourd'hui.
Et nous vous souhaitons une